Jane Austen, La Nouvelle Emma ou les caractères anglais du siècle. Tome 4e. Chapitre 41. Ils eurent une très belle journée pour leur partie de Box Hill. Tous se réunissaient pour la rendre très agréable, les arrangements, les préparatifs pour le repas, la ponctualité, tout alla à merveille. Le lieu du rassemblement fut fixé entre Hartfield et le presbytère. Tout le monde s'y trouva. Emma et Henriette étaient ensemble, Mademoiselle Betts et sa nièce avec les Elton, les messieurs étaient à cheval et Madame Weston resta avec M. Woodhouse. Il ne leur manquait que de se trouver heureux à Box Hill. On fit 7 000 dans l'espérance de se bien divertir et, tout en arrivant, on s'extasia sur la beauté du lieu. Mais le reste de la journée ne fut rien moins qu'agréable. On remarquait une langueur, un défaut d'union qu'il fut impossible de vaincre. On se sépara en petites parties. Les Elton se promenèrent ensemble. M. Knightley se chargea de Mlle Betts et de sa nièce, et Emma, ainsi qu'Henriette, échurent à Frank Churchill. M. Weston essaya en vain de les rassembler. Il semblait d'abord que cette division n'était qu'accidentelle. Cependant, elle continua à peu près de la même manière le reste du jour. M. et Mme Elton, à la vérité, paraissaient assez portés à se réunir aux autres et à se rendre aussi agréables que possible. Mais pendant tout le temps qu'on resta sur la montagne, la majeure partie de la compagnie maintint un principe de séparation que ni le coup d'œil, ni la collation, ni la gaieté franche de M. Weston ne purent vaincre. Emma s'ennuya beaucoup au commencement. Elle n'avait jamais vu Frank Churchill si taciturne, ni si maussade. Le peu qu'il dit ne valait pas la peine d'être entendu. Il regardait sans voix, admirait sans raison, écoutait sans entendre ce qu'on lui disait. Tant que Frank Churchill fut d'une humeur sombre, il ne parut pas surprenant à Emma qu'Henriette le fût aussi. Elle les trouva tous les deux insupportables. La scène changea lorsqu'ils furent tous assis. Car Frank Churchill commença à causer, devint gai peu à peu et s'occupa principalement d'elle. Il eut pour elle les attentions les plus marquées. Il se fit une étude de l'amuser et de se rendre agréable à ses yeux. Et Emma, charmée qu'on prit soin de la divertir, pas trop fâchée d'être flattée, recouvra toute son amabilité accoutumée, lui donna tous les encouragements possibles d'être galant, plus qu'elle n'avait jamais fait depuis qu'elle le connaissait. Mais si, à ses propres yeux, cela ne signifiait rien du tout, il n'en fut pas de même aux yeux des spectateurs, qui ne trouvèrent pas d'autre mot propre à décrire sa conduite que celui de coquette. « Mademoiselle Woodhouse fait la coquette avec M. Frank Churchill. » Il s'y était exposé, aussi on le sut à Maple Grove, par les soins d'une personne, et en Irlande, par ceux d'une autre. Ce n'est pas que la gaieté d'Emma vint d'une félicité réelle, c'était au contraire parce qu'elle se sentait moins heureuse qu'elle ne s'était attendue à l'être. Elle riait d'avoir été trompée dans ses espérances. Et, quoiqu'elle lui tînt compte de ses attentions, et les crut bien placées, soit comme marque d'amitié, de passion ou d'amusement, cela ne faisait aucune impression sur son cœur. Elle ne le regardait que comme un ami. « Que je vous suis obligée, s'écria-t-il, de m'avoir dit de venir aujourd'hui. » « Sans vous, je perdais le plaisir d'être de cette partie. Mon intention était de m'en retourner sur le champ. »« Oui, vous étiez de très mauvaise humeur. J'en ignore la cause, à moins que ce ne fût parce que vous étiez arrivé trop tard pour cueillir des fraises. Je vous ai traité avec plus de bonté que vous ne le méritiez. Mais vous vous êtes humilié, vous avez sollicité l'ordre de rester. » « Ne dites pas que j'étais de mauvaise humeur. J'étais fatiguée. La chaleur m'avait accablée. Il fait plus chaud aujourd'hui. Je ne m'en aperçois pas. Je me trouve à merveille. À la bonne heure. Mais c'est parce que vous êtes sous commandement. Sous le vôtre? Oui. J'avais peut-être l'intention que vous le dissiez, et cependant j'entendais parler du vôtre propre, que vous étiez maître de vous-même. » Vous étiez, de manière ou d'autre, sorti de votre assiette ordinaire, mais vous y êtes rentré aujourd'hui. Et comme je ne puis pas toujours être avec vous, je vous conseille d'être toujours sous votre propre commandement plutôt que sous le mien. C'est la même chose. Je ne puis avoir le commandement de moi-même sans motif. Je suis à vos ordres, que vous parliez ou non. Vous pouvez toujours être avec moi. Vous y serez éternellement. À date d'hier, à 3 heures, mon influence peut avoir commencé, et pas plus tôt, autrement vous n'auriez pas été de si mauvaise humeur. Hier à 3 heures, je croyais avoir eu l'honneur de vous voir pour la première fois en février dernier. Il n'y a certainement rien à répondre à un propos aussi galant. Mais, baissant la voix, il n'y a que nous qui parlions et c'est un peu fort de dire des fadaises pour amuser cette personne qui garde le silence. Je n'ai nulle honte de ce que je dis, répliqua-t-il avec une impudence rare. J'ai eu l'honneur de vous voir pour la première fois en février dernier. Je désire que tous ceux qui sont sur cette hauteur l'entendent s'ils peuvent. Je souhaite que ma voix puisse parvenir d'un bout du pays à l'autre. Je vous ai vu en février dernier pour la première fois. Ensuite, il lui dit à l'oreille, « Nos compagnons paraissent engourdis. Que ferons-nous pour les réveiller ?» La première sottise venue en fera l'affaire. Ils parleront. « Mesdames et messieurs, il m'est ordonné par Mademoiselle Woodhouse, qui préside partout où elle se trouve, de vous dire qu'elle désire savoir ce que vous pensez. » Quelques-uns se mirent à rire et répondirent d'une manière flatteuse. Mademoiselle Betts parla beaucoup. Madame Elton fut extraordinairement choquée de l'idée que Mademoiselle Woodhouse présida partout où elle se trouvait. M. Knightley s'expliqua le plus distinctement. « Mademoiselle Woodhouse, serait-elle bien aise de savoir ce que tout le monde pense ?»« Oh non !» s'écria Emma en riant et affectant beaucoup de nonchalance. « Pour rien au monde ! Je ne voudrais pas m'exposer à une pareille attaque. Dites-moi tout autre chose que ce qui faisait l'objet de vos pensées. Mais ne dites pas tout. Il y en a une ou deux, peut-être, jeta un coup d'œil sur Madame Weston et Henriette, de qui je n'aurais rien à craindre. « C'est une question, s'écria Madame Elton avec emphase, que je ne me serais pas permis de faire. Quoique, peut-être, en qualité de chaperon de la partie, je ne me suis jamais trouvée dans aucun cercle, à aucune excursion. Les jeunes demoiselles, les femmes mariées. » Elle disait tout cela entre ses dents, s'adressant particulièrement à son mari, qui répondit tout bas, « Vous avez raison, m'amour, c'est bien vrai, c'est exactement cela. L'on n'a jamais vu pareille chose. Mais il y a des dames qui se permettent de dire ce qu'il leur plaît. Il faut en rire, tout le monde sait ce qui vous est dû. » « Ça ne réussira pas, dit tout bas Frank Churchill à Emma. Ils se croient presque tous insultés. Je veux m'y prendre avec plus de dextérité. » Mesdames et messieurs, Mademoiselle Woodhouse m'ordonne de dire qu'elle renonce au droit qu'elle a de savoir vos pensées. Elle demande seulement de chacun de vous quelque chose d'amusant. Vous êtes 7 sans me compter. Elle a la bonté de dire que je la divertis passablement. Elle exige que tous en particulier disent quelque chose de très spirituel ou récitent une ou deux choses en prose ou en vers, passablement spirituelles, ou 3 choses extrêmement stupides. Elle promet d'en rire de bon cœur. « Ah, fort bien !» cria Mademoiselle Bates. « Cela ne me gênera guère. 3 sottises, c'est fort aisé pour moi. En ouvrant la bouche, j'en puis dire beaucoup plus, n'est-ce pas ?» Regardant autour d'elle avec toute la gaieté possible, « Ne le croyez-vous pas tous ?» Emma ne put résister. « Ah, mademoiselle, mais il y a une difficulté. Pardonnez-moi, mais vous êtes bornée à 3 seulement. » Mademoiselle Betts, trompée par son apparente politesse, ne la comprit pas sur le champ, mais aussitôt qu'elle fut au fait, sa rougeur n'annonça pas de colère, mais qu'elle était peinée. « Ah, fort bien. Oui, je l'entends. » Se tournant vers M. Knightley. « Et je vais essayer de me taire. Il faut que je lui sois bien désagréable, autrement elle n'aurait pas parlé ainsi à une ancienne amie. » « J'approuve votre plan, » s'écria M. Weston, « appuyé. Je fais un jeu de mots. Combien cela comptera-t-il » « Peu de choses, monsieur, » répondit son fils, « très peu de choses, mais nous serons indulgents en faveur de quelqu'un qui donne l'exemple. »« Non, non, » dit Emma, « il comptera pour beaucoup. Un jeu de mots de M. Weston suffira pour lui et son voisin. Allons, monsieur, voyons, commencez. » »« Je ne crois pas qu'il soit très spirituel moi-même, car il est trop vrai. quelles sont les deux lettres de l'alphabet qui expriment toutes les perfections? Quelles sont les deux lettres de l'alphabet qui expriment toutes les perfections? Ma foi, je n'en sais rien, dit le fils. Et vous, mademoiselle Woodhouse, le devinerez-vous? Je n'en crois rien. Vous ne voulez donc pas le deviner, dit M. Weston. Je vais donc vous nommer ces deux lettres. M, A, M-A. Me comprenez-vous à présent? Ce jeu de mots fit un plaisir infini à Emma, ainsi qu'à Frank Churchill et à Henriette. Mais le reste de la compagnie n'en parut pas également satisfait, et M. Knightley dit gravement « Ceci nous donne à entendre l'espèce de choses spirituelles qu'on désirait avoir. M. Weston s'en est très bien acquitté, mais s'il eût pris de meilleures informations, il aurait attendu un peu plus longtemps avant de prononcer « perfection ».« Quant à moi, je fais mes excuses, » dit Mme Elton. « Je ne veux même pas essayer. Ces sortes de jeux ne me plaisent pas. » On m'envoya une fois un acrostiche sur mon nom qui ne me plut nullement. J'en connaissais l'auteur, un désagréable fat. Vous savez ce que je veux dire, faisant signe à son mari. Ces sortes de jeux sont passables aux fêtes de Noël autour d'un bon feu, mais pas du tout pendant une excursion pour reconnaître les beautés de la nature en été. Mademoiselle Woodhouse voudra bien m'excuser. Je n'ai pas de choses spirituelles à jeter à la tête de tout le monde. Je ne me pique pas d'avoir de l'esprit. J'ai beaucoup de vivacité à ma manière. Mais je crois qu'il doit m'être permis de juger moi-même des circonstances où je dois parler ou bien garder le silence. Passez-nous, M. Churchill, s'il vous plaît. Passez aussi M. E, Knightley, Jeanne et moi. Aucun de nous n'a rien de spirituel à dire. Oui, oui, je vous prie, passez-moi, ajouta son mari avec dédain. Je n'ai rien d'amusant à dire à mademoiselle Woodhouse, ni à aucune autre demoiselle. Je suis marié depuis longtemps. Ainsi, je ne suis plus bon à rien. Irons-nous faire un tour, Augustine? De tout mon cœur, je suis fatiguée de reconnaître si longtemps dans le même endroit. Allons, Jeanne, donnez-moi le bras. Jeanne s'y refusa cependant, et les époux partirent seuls. « Heureux couple !» dit Frank Churchill, aussitôt qu'ils furent hors de portée de l'entendre. « Qu'ils se conviennent bien ! C'est un grand coup de fortune que la manière dont ils se sont mariés quelques semaines, je crois, après avoir fait connaissance à Bath. C'est très heureux, en vérité, car comment peut-on juger du caractère d'une personne à Bath ou dans les lieux publics ? C'est une chose impossible. » Ce n'est qu'à la maison, dans leur société particulière, qu'on peut connaître les dispositions des femmes et se former une juste idée de ce qu'elles valent. Hors de là, l'on ne peut former que des conjectures ou s'en rapporter au hasard. Et pour l'ordinaire, on rencontre fort mal. Combien d'hommes se sont aventurés après une courte connaissance avec une femme et s'en sont repentis le reste de leur vie ? Mademoiselle Fairfax, qui n'avait pas ouvert la bouche, excepté avec sa société particulière, prit alors la parole. « Ce que vous dites là arrive sans doute quelquefois. » L'atout l'empêcha de continuer. Frank Churchill se tourna de son côté pour l'écouter. « Vous disiez quelque chose, mademoiselle ?» La voix lui revint. « Je voulais seulement observer que, quoique des circonstances malheureuses, telles que celles dont vous venez de parler arrivent quelquefois à des femmes et à des hommes, je ne crois cependant pas qu'elles soient fréquentes. Un attachement précipité et imprudent peut se former. Mais par la suite, lorsqu'on s'en aperçoit, on peut aisément se dégager. Je désire être comprise. Je veux dire qu'il n'y a que des âmes faibles et irrésolues, dont le bonheur dépend toujours du hasard, qui puisse conserver une passion dont il sentirait l'inconvenance et le poids pour toujours. » Il ne répondit rien, la regarda, la salua humblement. Et peu après, il dit gaiement « J'ai si peu de confiance en mon propre jugement que j'espère que, quand l'envie me prendra de me marier, quelqu'un voudra bien me choisir une femme. Voulez-vous, se retournant vers Emma, voulez-vous m'en choisir une ? Je suis persuadée que j'aimerais celle que vous me dessineriez. Vous pourvoirez aux besoins de la famille, bien entendu. » À son père, en souriant. « Trouvez-m'en une, je ne suis pas pressée. Adoptez-la, élevez-la. » « Voulez-vous qu'elle me ressemble ? » Oh, de tout mon cœur, si vous le pouvez. Fort bien, je me charge de la commission. Vous aurez une femme charmante. Je demande qu'elle soit très gaie, qu'elle ait les yeux gris foncés. Je me soucie peu du reste. J'irai voyager pendant 2 ans. À mon retour, je viendrai vous demander ma femme. Souvenez-vous-en. Il n'y avait pas de danger qu'Emma l'oublia. Cette commission caressait agréablement son imagination. Henriette ne serait-elle pas la femme qu'il lui faudrait? Excepté des yeux gris foncés, dans 2 ans, elle serait digne de lui. Il pensait peut-être à Henriette lorsqu'il parlait d'une femme. Qui sait? S'en rapportant à elle pour le soin de son éducation, semblait confirmer cette idée. « Maintenant, madame, » dit Jeanne à sa tante, « voulez-vous que nous allions rejoindre madame Elton ?»« Comme il vous plaira, ma chère, de tout mon cœur, je suis prête. J'avais envie de la suivre lorsqu'elle s'est levée. Mais il est encore temps, nous la rejoindrons bientôt. La voilà. Non, c'est une dame qui est venue dans le petit char irlandais. Elle ne lui ressemble pas du tout. » Elles s'en allèrent et furent suivies 1 minute après par M. Knightley. Il ne resta qu'Emma, Henriette, M. Weston et son fils. La vivacité de ce dernier augmenta au point de la rendre désagréable. Emma elle-même se fatigua de flatteries et de plaisanteries. Elle eût préféré se promener avec d'autres personnes ou s'asseoir seule pour jouir du charmant coup d'œil qui était au-dessous d'elle. La vue des domestiques et des voitures qui les attendaient la réjouit infiniment. Jusqu'aux embarras du départ et à la prétention de Madame Elton d'avoir sa voiture la première, elle supporta tout cela patiemment, dans l'espérance de s'en retourner tranquillement à la maison et de mettre fin à une partie dont le désagrément surpassait de beaucoup le plaisir. Elle se promit bien de ne plus se trouver désormais avec une compagnie composée de personnes aussi mal assorties. Tandis qu'elle attendait sa voiture, elle vit M. Knightley à côté d'elle. Il regarda tout autour de lui, comme pour s'assurer qu'il n'y avait personne à portée de l'entendre. Ensuite, il lui parla ainsi. « Emma, je vais vous parler encore une fois, comme j'ai eu coutume de le faire, privilège que vous avez plutôt souffert que permis. Je dois encore en faire usage. Je ne puis vous voir vous mal conduire sans vous en prévenir. Comment avez-vous pu être si sévère envers Mademoiselle Bates ? Comment vous êtes-vous permis d'insulter à une femme de son âge, de son caractère, et enfin dans une situation comme la sienne ? Emma, je ne l'aurais jamais cru de vous. » Emma se recueillit, rougit, se reconnut coupable, mais affecta d'en rire. « Et comment pouvais-je m'empêcher de parler comme je l'ai fait ? Personne n'aurait agi autrement. D'ailleurs, il n'y a pas grand mal, car je suis sûre qu'elle ne m'a pas comprise. » « Je vous assure qu'elle a parfaitement entendu ce que vous vouliez dire. Elle en a parlé depuis, et je désirerais que vous l'eussiez pu entendre avec quelle candeur, avec quelle générosité elle s'exprimait. J'aurais souhaité que vous eussiez pu être témoin de la reconnaissance qu'elle exprimait envers vous. « Quelle est bonne, disait-elle, d'avoir tant d'attention pour une créature dont la société lui est si désagréable. Que d'obligations nous lui avons, ainsi qu'à son père. » « Oh !» s'écria Emma, « je sais qu'il n'existe pas dans le monde une meilleure créature qu'elle. Mais vous savez aussi que la bonté et le ridicule forment la base de son caractère. » « Cela est vrai, dit-il, je l'avoue. Mais si elle était heureuse, j'admettrais même que le ridicule surpasse la bonté. Si elle avait de la fortune, je ne trouverais pas mauvais que ses absurdités fussent pour vous un objet de dérision. Si elle était votre égale par sa position, je ne vous ferai aucun reproche. Mais, Emma, considérez la distance qu'il y a de vous à elle. Elle est très pauvre, elle est déchue de l'état de prospérité dans lequel elle était née, et si elle vit longtemps, son sort deviendra encore plus malheureux. Sa situation devrait exciter en vous de la pitié. En vérité, vous vous êtes mal conduite. Vous, qu'elle a vu enfant, vous, qu'elle a vu croître lorsque ses attentions vous honoraient, vous venez maintenant, par étourderie, par un orgueil mal entendu, de vous moquer d'elle, de l'humilier devant sa nièce et devant des gens dont quelques-uns imiteront votre exemple. Ce que je vous dis, Emma, ne vous est pas agréable sans doute, mais je vous assure que cela me l'est encore moins. mais il est de mon devoir de vous faire ces représentations. Tant qu'il sera en mon pouvoir de vous dire la vérité, je le ferai. En vous donnant de bons conseils, je vous prouve la sincérité de l'amitié que j'ai pour vous. Et je me flatte qu'un jour ou l'autre, vous me rendrez plus de justice que vous ne le faites à présent. » Tout en parlant, il s'approchait de la voiture. Elle était prête, et avant qu'elle pût dire un mot, il lui avait donné la main pour y entrer. Il avait méconnu les sentiments qui l'avaient engagé à tourner la tête et l'avaient empêché de parler. C'était un composé de colère contre elle-même, de mortification et de chagrin. Elle n'avait pu ouvrir la bouche et, en se plaçant dans sa voiture, elle fut prête à se trouver mal. Elle se remit, se reprocha de n'avoir pas pris congé de lui, de l'avoir quitté d'un air de mauvaise humeur. Elle essaya avec la voix et les mains de réparer ses torts, mais il était trop tard. Il était monté à cheval et avait disparu. Elle continua en vain de regarder derrière. Mais ce qui lui parut très extraordinaire, elle allait très vite et le reste de la compagnie, ne l'ayant pu suivre en descendant la montagne, était demeuré loin derrière elle. Elle en ressentit un chagrin mortel. Elle eut peine à le cacher. Jamais, dans aucune circonstance, elle n'avait été si agitée ni ressenti une pareille mortification. Elle était frappée au cœur. Ses représentations étaient justes. Elle ne pouvait le nier. Son propre cœur se joignait à M. Knightley. Comment avait-elle pu être si cruelle envers Mlle Bates? Comment avait-elle pu se compromettre devant les personnes pour lesquelles elle avait beaucoup d'estime? Et comment avait-elle pu le quitter sans lui témoigner sa reconnaissance ou lui avoir donné des marques d'amitié? Elle était inconsolable. Plus elle réfléchissait, plus elle se trouvait coupable. Jamais elle n'avait été si abattue. Heureusement qu'elle n'était pas obligée de parler. Elle n'avait dans sa voiture qu'Henriette, qui ne semblait pas très satisfaite elle-même, très fatiguée et disposée à garder le silence. Emma sentit couler ses larmes pendant presque toute la route et elle ne fit aucun effort pour les retenir.